Le thème du message, c'est approfondir notre communion. On a longtemps parlé de cette communion, de cette intimité avec Dieu, de cette relation que nous avons chacun avec le Seigneur. Et je crois que nous sommes tous convaincus de la nécessité d'avoir des temps de prière, de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Mais il nous est aussi parlé de cette communion fraternelle. Et là, combien le Seigneur nous invite à rentrer dans cette communion, combien il nous invite aussi à pouvoir nous aimer les uns les autres, à nous plier les uns les autres. En cela, nous voyons que les problèmes, souvent, ils commencent là. Hein. Souvent, lorsque nous rentrons dans une relation de travail, eh bien, à ce moment-là, on voit que ce n'est pas facile. Hein. Et je vois bien que de travailler dans notre société en équipe, avec une éducation qui est basée sur un travail individuel, il y a souvent des heurts, souvent des conflits, souvent des difficultés. Dieu nous invite aujourd'hui à avoir une relation de travail. Dieu nous invite à rentrer dans un travail d'équipe et de rechercher sa gloire. Il nous invite, et pour cela, il y a deux choses qui sont importantes, deux piliers, deux fondements qui sont importants dans le travail d'équipe. C'est avoir premièrement un objectif commun. Ils étaient tous ensemble d'un même cœur, d'une même âme, et ils recherchaient tous ensemble eh bien, l'objectif à atteindre. Et je crois que notre objectif pour nous, Français, c'est de voir ce pays se tourner vers le Seigneur, de voir la gloire de Dieu être manifestée. Et il y a aussi un deuxième point qui est important, et je crois que nous y travaillons de plus en plus, c'est une bonne communication. Souvent, on se rend compte que quand il n'y a pas de communication, eh bien, il n'y a pas de succès et le travail en équipe ne s'effectue pas d'une manière cohérente. Un objectif commun, une bonne communication nous donne les clés du succès. Un groupe de travail qui a un même projet, qui a un même objectif, s'il n'a pas une bonne communication, ce n'est pas un travail d'équipe. Un groupe qui communique bien, qui s'entend bien, s'il n'a pas le même objectif, ce n'est pas un travail d'équipe. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que la gloire de Dieu peut se manifester dans notre pays qu'au travers d'un travail d'équipe. L'Église n'est pas la gloire d'un homme, mais c'est le travail d'une équipe qui amène un serviteur de Dieu à rentrer dans le plan que Dieu a pour lui. Et que sa gloire se manifeste au travers de ses instruments. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 4, versets 9 à 12, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second et le relever. » De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. On voit bien que cet exemple nous montre que plus nous sommes à travailler ensemble et plus nous portons du fruit. Plus nous collaborons, plus nous travaillons dans un même but, dans un même objectif, plus nous avons un système de communication qui est bien rodé, et plus nous portons du fruit à la gloire de Dieu. On voit bien aussi que le prophète Néhémie, lorsqu'il a voulu reconstruire le mur de Jérusalem, eh bien c'est un travail d'équipe, c'est un travail de famille, c'est un travail qui a soulevé une multitude de personnes, et je bénis le Seigneur pour le résultat qui a été accompli, la reconstruction eh bien, du mur de Jérusalem. Nous avons besoin les uns des autres, eh bien, d'être ensemble dans ce grand projet que le Seigneur nous donne à chacun. Si nous voulons le réveil en France, ce n'est pas le travail d'un homme, mais c'est votre travail. C'est notre travail. Et notre objectif doit être en commun. Et nous devons eh bien, communiquer afin non pas de rester sur le banc de touche, mais d'être des ouvriers, d'être des soldats de Dieu afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alors moi, je bénis le Seigneur pour ces choses-là. On le voit d'ailleurs aussi, Jésus lui-même envoyait les disciples deux à deux annoncer la bonne nouvelle. Hein, il y avait toujours cette notion d'équipe, de travail en équipe, cette notion de marcher deux par deux, hein, cette notion d'aller faire les choses. Et on voit bien que là, ça porte du fruit. Lorsque nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes, mais lorsque nous travaillons avec nos frères et nos sœurs. C'est là quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui porte beaucoup de fruits, mais c'est aussi le début de nos soucis. C'est le commencement, eh bien, de nos difficultés. Parce qu'on voit bien que travailler seul, on sait, on a été éduqué pour cela, on a reçu une éducation qui nous amène à rentrer dans la compétition, à être les meilleurs, à ne plus avoir besoin de personne pour travailler, mais simplement à travailler d'une manière, je dirais, avec une hiérarchie, hein, des chefs qui donnent des ordres et qui manifestent leur autorité. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que ce style de travail ne correspond plus à notre société et que nous avons besoin, eh bien, chacun de nous, d'être ensemble, de travailler ensemble afin de former un même corps. C'est là cette notion que nous devons travailler. Moi, j'aime bien parce que Dieu nous invite à travailler ensemble, mais il nous invite aussi à travailler notre terrain, notre caractère, nos habitudes, à changer tout ce qui ne va pas finalement dans cette notion d'individu pour rentrer dans une notion collective. Hein, et je bénis le Seigneur parce que qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans le chapitre 5 de Néhémie. On voit cette histoire formidable. Néhémie, on l'a vu au chapitre 4, il se bat avec des ennemis parce qu'on se moque de lui, on ne veut pas qu'il construise, qu'il reconstruise le mur de Jérusalem. Et Néhémie arrive à rassembler le peuple et tout ce peuple s'est uni pour la reconstruction. Vous savez, quand on a des ennemis qui sont extérieurs, souvent nos ennemis nous permettent une promotion. Je le dis souvent, pourquoi ? Parce que David, eh bien, s'il n'y avait pas eu Goliath, il n'aurait pas été connu. Hein, et c'est Goliath qui a permis à David d'avoir cette promotion. Les ennemis extérieurs nous soudent, nous unissent. C'est souvent, lorsque nous avons des difficultés, c'est là que la famille, eh bien, se regroupe et qu'elle est entière, elle forme un bloc. Hein, on voit bien que l'ennemi extérieur nous apporte de l'unité et au contraire, nous apporte beaucoup plus de force. Le problème, c'est souvent lorsqu'il y a des difficultés dans la maison. Hein, lorsque vos ennemis ne sont pas à l'extérieur, mais ils sont à l'intérieur. Lorsque vos ennemis sont à l'intérieur, vous voyez bien les difficultés qu'une famille rencontre lorsqu'elle a des difficultés avec ses enfants. Hein, c'est plus facile de combattre quelqu'un qui est à l'extérieur que de combattre quelqu'un que vous voyez tous les jours, avec qui vous vivez. Et bien souvent, on se rend compte que c'est là, dans ces moments difficiles, que nous sommes déchirés, que nous sommes pris par la douleur, par notre affectif, par tout ce qui nous empêche de voir d'une manière claire. Dans le chapitre 5, on se rend compte que ces hommes, ces juifs, avaient été récupérés par d'autres juifs qui voulaient les exploiter, qui voulaient se servir, eh bien, de ce peuple pour en tirer un gain. Et on voit bien qu'ils se servaient de leurs propres frères, des faiblesses de leurs propres frères, des faiblesses de leurs propres sœurs, pour les attirer dans simplement une relation qui leur était personnelle, dans leur ego, dans ce qui leur correspondait. Hein, on fait souvent cela. On essaie toujours de trouver des gens qui soient d'accord avec nous. On les amène un petit peu à nos idées, et puis ça nous réconforte, et ainsi on crée des zizanies, ainsi on crée des problèmes, et l'Église est souvent ébranlée par de tels comportements et de tels agissements. Et comment a réagi Néhémie ? Alors, on voit la réaction de Néhémie, elle est surprenante. Néhémie, il s'est mis en colère. Hein, dans le livre des Éphésiens, il nous est dit que la colère, eh bien, si elle n'est pas porteuse de péché, c'est une bonne colère. Et il y a les bonnes colères et il y a les mauvaises colères. Hein. Néhémie, il leur a dit au chapitre 5, verset 7, « Je résolus de faire des réprimandes. » Il dit d'ailleurs « Ce que vous faites n'est pas bien. » Il les engueule. Il leur dit « Arrêtez un petit peu. » Pourquoi il les engueule ? Parce qu'il était conscient d'une chose. C'est que ces histoires intérieures, ces querelles qu'il y avait entre frères et sœurs, eh bien, n'amenaient rien à l'œuvre de Dieu. Et que, ou bien au contraire, elle allait arrêter, stopper l'ouvrage de Dieu. Et que le mur de Jérusalem allait être arrêté parce que il y avait eh bien des tensions, il y avait cette notion de malaise, hein, cette notion de vouloir toujours exploiter le frère ou la sœur. Et je crois que c'est très important de remettre de temps en temps les pendules à l'heure. Hein, j'ai parlé d'un objectif commun. Notre objectif, c'est atteindre la France. Si à chaque fois j'ai un problème avec un frère ou une sœur, et si ce problème doit m'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, je me demande, eh bien, que représente la hauteur de notre foi ? Si à chaque fois que j'ai des problèmes, je ne dois plus venir à l'église, je me demande quelle est la qualité de la foi que nous avons. Hein, comment regarde ces choses Jésus ? Si à chaque fois que j'ai un petit bobo, eh bien, je rentre dans mes blessures de la chair, je ne rentre plus dans le plan que Dieu a pour moi, et puis je prends la poudre d'escampette. Hein. Alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Néhémie, il était conscient, on n'a pas fait des attaques à Néhémie. On n'a pas venu voir Néhémie en lui disant « Néhémie, tu te comportes mal, c'est pas bien ta façon d'agir, etc. » Non, Néhémie, il était conscient de quelque chose. Il y avait un objectif à atteindre et ces divisions, ces problèmes qu'il y avait intestinales, empêchaient la construction du mur, empêchaient l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Et c'est cela que Dieu veut, que nous soyons vigilants. Hein, les attaques, souvent on parle d'attaques, mais l'ennemi, eh bien, il passe et qu'est-ce qu'il fait ? Il touche notre ego, notre orgueil, notre susceptibilité. Hein, il touche. Néhémie, il a pas été, il s'est pas mis en colère parce qu'on lui avait touché son ego. Il s'est mis en colère parce qu'il était conscient que de telles choses pouvaient empêcher la construction du mur. Néhémie a agi avec droiture. La colère, la mauvaise colère, cette colère qui est rejetée dans le livre de Jacques, et nous le voyons au chapitre 1, verset 19, « Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu, la colère qui n'amène pas l'accomplissement du plan de Dieu, est une colère qui est réprimandée par Dieu. Et comment eh bien, cette colère se manifeste ? Lorsque notre ego est atteint et lorsque nous réagissons en fonction de notre ego, de notre orgueil, de notre égoïsme. Chacun, vous savez, essaie de tirer la couverture à lui ou à elle. Le travail en équipe n'est pas un travail avec une hiérarchie verticale, un patron, un directeur, des employés. Le travail en équipe, c'est des objectifs et chacun eh bien, doit rentrer dans le plan que Dieu a pour cette personne. Et ça nécessite une recherche. D'abord, savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que je peux être utile dans telle ou telle ou telle ou telle fonction ? C'est mettre sa vie au service des autres. Et bien souvent, nous vivons dans un système où dès que nous donnons des fonctions, et bien les gens sont complètement liés par la fonction, ils ne vivent que par la fonction, ils sont tétanisés par la fonction et ils ne vivent plus et bien l'appel que Dieu a pour eux, c'est-à-dire le service. Le Seigneur nous donne eh bien, de mettre notre vie au service des autres. Nous sommes pas, l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, hein, une entreprise humaine. Ne regardez pas à l'œuvre de Dieu comme une entreprise humaine. Hein, l'œuvre de Dieu nous amène à dire, Seigneur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Seigneur, me voici pour te servir. Si je chante, je chante. Si je parle avec un frère de Dieu, je parle avec un frère de Dieu. Si je dois laver le sol, je lave le sol. Si je dois nettoyer les toilettes, je vais nettoyer les toilettes. Si je vais voir les malades, je vais voir les malades. Si je prie pour un frère, je vais prier pour un frère. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est pas à être cloisonné, sclérosé par une fonction, par un titre que vous vous êtes affublé et qui vous tient lié et qui vous empêche d'être de véritables chrétiens et qui, au bout d'un certain temps, eh bien, fait que vos cœurs deviennent des cœurs tellement durs, tellement de pierre que vous n'avez plus la sensibilité d'un enfant de Dieu. Je vous rappelle pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour ceux qui nous ont offensés. Il est mort pour ceux qui sont dans la faiblesse. Il est mort pour ceux qui ne vous plaisent pas, pour ceux qui ne vous conviennent pas. C'est ça la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour ceux qui vous ont mis des problèmes. Bénissez vos ennemis. Il est mort pour tous ceux qui finalement ne correspondent pas à nos clichés. Mais nous devons nous rappeler jour après jour que nous étions comme eux. Nous devons nous rappeler que jour après jour, eh bien, nous aussi, nous étions des pécheurs et qu'encore aujourd'hui, nous péchons et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors, il y a cette notion de service, d'authenticité. Néhémie a un peu voulu remettre les pendules à l'heure. Il faut, l'Église, de temps en temps, doit remettre les pendules à l'heure. On doit remettre les choses dans leur ordre, afin qu'on ne puisse plus pas se prendre la grosse tête, mais au contraire, qu'on devienne des serviteurs et des servantes. Que notre vie soit utile à la gloire de Dieu. Et s'éloigner toujours de nos susceptibilités, de notre ego, de tout ce qu'on nous a fait qui nous heurte et qui nous empêche finalement d'accomplir le plan de Dieu. Et qui, bien au contraire, met une pierre d'échoppement dans l'œuvre de Dieu et ne permet plus à l'œuvre de grandir. Ça empêche la bénédiction. Tout cela parce que on n'est pas d'accord. Tout cela parce qu'on nous a dit une parole de travers. Tout cela parce qu'on a entendu. Vous savez, si les serviteurs de Dieu devaient quitter leur sacerdoce, parce qu'avec tout ce qu'ils ont entendu, je crois qu'il n'y aurait plus un seul homme de Dieu en France ni dans le monde. Et je crois que Jésus lui-même ne serait pas allé à la croix, parce que si on l'a critiqué, on a craché sur lui, on l'a rejeté, on l'a renié, et je vous rappelle la croix avec tout ce qu'elle comporte. N'oubliez pas qu'il y a tout un volet qu'on veut souvent occulter, c'est la souffrance, le chemin de croix, et c'est un chemin aussi par lequel le Seigneur nous amène. Alors, Dieu nous invite, rappelez-vous toujours ces deux fondements, nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous donne de grandes bénédictions. Tout ce matériel qui est là pour servir la gloire de Dieu. Toutes ces images, tous ces messages qui vont être répandus dans le monde. Je bénis le Seigneur pour tout cet aspect qui va nous permettre de communiquer aux non-chrétiens que Jésus est le Seigneur. Je bénis le Seigneur que des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles se lèvent afin de mettre leur vie au service des autres, au service du monde perdu. Aujourd'hui, on fait toujours des conflits, les jeunes, les moins jeunes, l'ancienne génération. On a l'impression que le Seigneur nous conduit, vous savez, comme dans les basses-cours où les jeunes sont là en train de dire « ben moi » et puis les moins jeunes « mais non ». Non, nous sommes là pour vivre ensemble. Nous sommes là pour, comme une famille, à aider la nouvelle génération à grandir dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là, bien au contraire, pour apporter, comme un père, comme une mère, qui porte de l'attention à ses enfants, toutes les soins qui sont nécessaires. On sait bien que les jeunes, ce n'est pas toujours tout rose. Si dans vos familles, je suis persuadé que vous avez eu des difficultés, que vous en aurez encore avec vos enfants, mais vous les aimez, vous les soutenez, et vous les aider à grandir, à se faire une place dans la société. Et c'est notre rôle, à nous, de père, de mère, dans la foi, eh bien, d'aider cette jeunesse. Ne pensez pas que vous soyez exclus de toutes ces choses-là. Bien au contraire, un enfant a besoin de ses parents, mais il y a là une très mauvaise communication. On veut faire un conflit qui n'existe pas. On veut rentrer dans des situations conflictuelles alors qu'il n'y a aucun conflit. On dit, ah ben si les jeunes ils veulent faire, on va les laisser se débrouiller et on va voir s'ils sont plus capables que nous. Est-ce que c'est une attitude chrétienne ? Nous sommes là pour aider, nous ne sommes pas là pour dire on va rentrer dans un combat, dans une dualité, débrouillez-vous, cassez-vous la figure, on va bien rigoler. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est soutenir. N'oubliez pas, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est la France. L'objectif, c'est Marseille. L'objectif, c'est que des milliers, des millions de personnes viennent à Jésus. N'oubliez pas votre objectif. N'oubliez pas pourquoi Jésus est mort à la croix. Notre objectif, eh bien, c'est de pouvoir amener le peuple, ce peuple de Marseille, ce peuple que Dieu t'a honoré et t'a trouvé à la hauteur pour que tu puisses amener ces non-croyants à la foi. C'est là ton objectif. C'est de voir l'Église renouvelée, c'est de voir l'Église enfantée, c'est de voir l'Église se multiplier. C'est là nos objectifs. Et ne rentrons pas dans des systèmes. Ne vous sentez pas exclus. On s'exclut vite. On a l'impression qu'on met des conflits, et je crois que c'est dans le monde souvent, dans d'autres pays aussi, où on met des conflits là où ils n'existent pas. On a le sentiment que les personnes, parce qu'ils disent « Ah ben les jeunes, il faut les laisser. Ah les jeunes, ben, non, ne vous sentez pas exclus. Les jeunes ne vont pas vous rejeter. Est-ce que vos enfants vous rejettent quand vous voulez travailler avec eux ? Est-ce que vos enfants sont là en train... Ben non. Chacun, nous avons à travailler ensemble. Chacun, nous avons à nous apporter des choses. C'est quelque chose qu'on vit souvent dans cette génération, de vouloir toujours créer des conflits, des problèmes, là où ils n'existent pas. Moi, je bénis le Seigneur. Des personnes qui ont dit, eh bien voilà, il y a 40 jeunes, je suis là, est-ce que je viens à telle heure, je peux faire des sandwichs, je peux distribuer, je peux faire ce que vous avez besoin, je suis là. C'est formidable ça, c'est le rôle que nous avons. Hein, si on met un secrétariat, c'est pourquoi ? C'est pour vous servir. C'est pour qu'il soit là, à votre écoute, pour qu'il puisse apporter la communication, pour qu'il puisse vous donner des informations, pour qu'il puisse vous aider. C'est à cela que nous servons. Et je bénis le Seigneur eh bien, pour tout cela. Hein, je bénis le Seigneur de et pas rentrer. Vous savez, souvent, on rentre dans la mauvaise colère eh bien, n'est pas bonne porteuse. On essaie de se trouver des vengeances. On a une attitude, des fois, qui n'est plus du tout chrétienne. On se demande qu'est-ce qui reste de chrétien. Je veux bien qu'on fasse des erreurs. Je veux bien qu'on n'est pas parfait. Et je le sais. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ? Qui lève la première pierre, dira Jésus. Personne n'est parfait. Hein? Mais nous sommes toujours prêts à lapider. Nous sommes toujours prêts à prendre la pierre et à condamner. Nous sommes toujours prêts à rentrer sur nos gonds et à sortir nos griffes. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? L'Alicia, c'est plus que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Nous sommes dans cette situation bien souvent. Hein, le Seigneur nous invite bien au contraire à regarder à la croix, à regarder eh bien, à cela. Je bénis, vous verrez le livre donc, de Néhémie au chapitre 5, tout ce qui explique comment eh bien, il a ramené la paix dans ce peuple et que l'ouvrage de Dieu a pu recommencer. Et l'une des clés, eh bien, c'est le pardon, parce que Dieu nous a donné le pardon. C'est une grâce, le pardon. Hein, et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir demander pardon. Approfondir notre communion. On a besoin de se connaître. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'œuvrer avec un même objectif. On a besoin de réfléchir et de dire comment je vais faire passer le message, communiquer avec les autres. On a besoin de rentrer dans le plan que le Seigneur nous donne et de pouvoir se parler d'une manière sincère, vraie, authentique. Pas d'une manière hypocrite. L'hypocrisie, Jésus, il a rejeté. Hein? On met dans le temple l'hypocrisie. Jésus a rejeté l'hypocrisie du temple. Hein? Jésus a, au contraire, ramené l'esprit d'amour, de paix, de joie. C'est ça, l'Église. C'est que nous ayons une bonne atmosphère, que nous ayons une bonne communion, que nous soyons porteurs de bonnes choses. Vous savez, c'est pas facile parce que les Français, ils sont râleurs. Hein? Ils sont prêts à jeter la première pierre, mais ils reconnaissent jamais les bienfaits. Hein? Oh, pour se mettre en colère, pour rentrer dedans, ça, on y va. Hein? On sait faire. Hein? Moi, j'aime bien parce que si on lisait Jacques, on se tairait plus souvent. Mets un garde à ta bouche. Il faut faire attention, vous savez, les gens qui parlent à tort et à travers, ce sont des dangers vivants, parce qu'ils conduisent des informations. Nous sommes porteurs d'une information. Vous croyez, vous dites, oh, mais moi j'ai dit ça, je me suis mis en colère, et puis après ça me passe. Mais l'autre, elle a entendu l'information. Et l'autre, elle peut répondre l'information à quelqu'un d'autre. Et ça peut être très dangereux. Donc nous devons veiller à toutes ces choses-là. Nous devons veiller à toutes ces choses. Alors, moi, je bénis le Seigneur parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Barnabas. Barnabas, c'est fils de l'encouragement. C'est ça la signification de Barnabas. Encourager. Nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour soutenir. Nous sommes là pas pour diminuer, nous sommes pas là pour frustrer, nous sommes là bien au contraire pour que les hommes, les femmes, les enfants soient mis en valeur. Hein, c'est l'esprit d'encouragement, de regarder au positif et pas au négatif. C'est malheureux ça. Vous n'avez pas remarqué une chose? Quand quelque chose ne va pas avec quelqu'un, on remarque son défaut. Et puis, alors, on est là à se heurter simplement sur le défaut. Et il n'y a que le défaut qui compte. On a l'impression que la personne, elle n'a jamais rien fait de bien de sa vie. Moi, je suis affolé par ce sentiment, par cette attitude. Hein, les gens qui reconnaissent jamais la valeur de son frère ou de sa sœur. Ils voient que les défauts. Les qualités, on ne les voit pas. Tu peux travailler, tu peux prier, tu peux venir, tu peux faire ci, tu peux faire là, tu peux être exact. Ça, on ne voit pas. Par contre, les défauts, alors là, on voit que ça. On dirait qu'on ne vit, on est obsédé que par les défauts. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Fils de l'encouragement, vous êtes appelé à encourager. Vous êtes appelé à aider. Vous êtes appelé à soutenir. Vous êtes appelé à être rempli d'amour, de joie. Moi, je bénis le Seigneur de toutes ces choses. Un frère, il a eu une idée, il a dit, je suis chrétien, j'ai envie de donner des nouvelles à mes amis. Alors, je vais leur envoyer tous les mois deux pages d'SMS, présenter mon église, qu'est-ce que je fais, mes activités, etc. Il encourage, il communique, il dit quelque chose.